Je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence collective. C'est une notion dont on entend actuellement beaucoup parler dans la presse, et peut-être aussi que votre attention a été attirée par l'exposition Foule en cours à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Celle-ci est coordonnée par Mehdi Moussaïd. Il a eu un parcours en informatique, en éthologie et en physique, avant de mener actuellement des recherches en sciences cognitives au Max Planck Institut de développement humain à Berlin. Et déjà, on peut se dire, tant de disciplines pour explorer un objet. Derrière la notoriété croissante de cette notion d'intelligence collective et les avancées dans son exploration, émergent plusieurs questions. D'abord, comment définir cette notion multifacette? Et ensuite, à quoi cela sert-il? Alors, de nombreuses approches sont possibles et il devient important d'explorer les contours de cette intelligence collective en s'interrogeant sur ses implications pratiques. Donc, ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est de nous arrêter sur cette notion pour en montrer la complexité. Et l'enjeu va être d'en proposer quelques jalons de compréhension. Pour cela, on va d'abord s'interroger sur ce qu'est l'intelligence collective. Et ensuite, une fois que nous aurons eu recours à de courtes incursions en biologie, en informatique, en mathématiques, en psychologie et en philosophie, nous en viendrons à mettre en avant les changements en cours dans l'appréhension de la notion, notamment du fait de l'émergence des nouvelles technologies numérique. Dans un second temps, nous interrogerons sur les enjeux et les conditions de l'intelligence collective en interrogeant ses liens à l'innovation, à l'expertise, puis en indiquant les éléments qui peuvent faciliter ou freiner le développement de cette fameuse intelligence collective. Qu'est-ce que l'intelligence collective? L'intelligence collective, c'est une notion qui est familière. Nous en développons tous une compréhension intuitive. Il s'agit d'être intelligent à plusieurs. Cela évoque une forme d'intelligence qui émerge lorsqu'un groupe d'individus collabore. L'intelligence collective repose sur l'idée que la contribution de multiples personnes peut engendrer des résultats plus riches, variés, efficaces et innovants que ceux issus d'efforts individuels. Mais pourtant, cette notion répond à plusieurs modèles concurrents qui parfois n'ont que très indirectement à voir avec la représentation que l'on s'en fait. Dans le parcours exploratoire que nous vous proposons, nous examinerons divers modèles d'intelligence collective, en débutant par des études sur les insectes, puis les ordinateurs, avant d'approfondir l'exploration de l'intelligence collective humaine. Nous allons d'abord nous arrêter sur ce que l'on pourrait qualifier de modèle biologique de l'intelligence collective. Dans les années 1980, se développent des études sur le fonctionnement des groupes d'insectes, comme les abeilles ou les fourmis par exemple. Dans ces études, il s'agit de comprendre et de modéliser ce que l'on nomme la « swarm intelligence », c'est-à-dire l'intelligence en essaim. Les chercheurs se penchent sur la manière dont se comporte un groupe d'insectes pour accomplir une tâche et résoudre un problème. Une situation d'étude canonique est par exemple celui du transport de nourriture selon le chemin le plus court entre le lieu d'approvisionnement et le lieu de stockage. Ces recherches mettent en avant que les insectes ne se comportent pas en agents simples, qui répondraient à des comportements élémentaires, comme suivre une trace odorante. En fait, ils ne sont pas régis par quelques formules basiques. À l'inverse, au sein de l'essaim, des phénomènes complexes de coopération et de bataille sont menés, dont il est parfois nécessaire et en même temps extrêmement difficile de rendre compte pour étudier le comportement de l'essaim. Dans ces études, l'essaim est considéré comme une forme de super-organisme où chaque élément, issu d'une même histoire, est déjà doté d'un programme de conduite élaboré. La capacité d'action de l'essaim ne dépend pas des facultés individuelles de chaque insecte pris unitairement. C'est le fruit d'une interaction entre les insectes et de l'histoire de l'essaim. Dans les années 80, se développent aussi des travaux sur l'intelligence artificielle. Et nous allons donc aborder maintenant un second modèle de l'intelligence collective qu'on pourrait qualifier de modèle informatique. Il y a notamment un champ de recherche qui porte sur les systèmes multi-agents. On en attribue souvent la paternité à Marwin Minsky. Alors Marwin Minsky, c'est un mathématicien intéressé aussi par la psychanalyse. Et c'est effectivement un spécialiste de l'intelligence artificielle. Par exemple, il a cofondé le Centre d'intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology, qu'on appelle MIT, aux États-Unis. Mais dans son livre le plus connu, La société de l'esprit, qui se compose de plus de 250 essais, eh bien, on ne va pas développer la notion d'intelligence artificielle telle qu'on l'imagine aujourd'hui dans sa connotation très technologique. Minsky cherche en fait à comprendre et à modéliser les processus intelligents au sein de notre cerveau. Il cherche à expliquer, par exemple, comment un enfant peut distinguer très rapidement un chien d'un chat. Autrement dit, comment nous pouvons apprendre de nouveaux concepts. Il cherche à expliquer comment fonctionne l'esprit humain. Il le décrit comme le résultat de l'interaction de plusieurs processus isolés qu'il nomme des agents. Ces agents ne sont pas nécessairement intelligents quand on les prend isolément et ils n'œuvrent pas nécessairement dans le même sens. Mais par contre, à la fin, ils vont produire un esprit intelligent. Autrement dit, notre cerveau fonctionne lui aussi un peu comme un essaim. De ces études se développe aussi ce que l'on a nommé les réseaux de neurones. Il s'agit de modèles mathématiques qui sont construits pour reproduire le fonctionnement des neurones biologiques et que l'on peut ensuite traduire de manière informatique. Il y a un lien fort entre ces réseaux de neurones et le développement de l'intelligence artificielle, que le Parlement européen définit d'ailleurs aujourd'hui comme l'ensemble des outils et méthodes qui permettent de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Aujourd'hui, l'étude du fonctionnement de ces dispositifs intelligents, comme le cerveau ou d'autres machines intelligentes, relève de ce que l'on désigne sous le terme d'architecture cognitive. Une architecture cognitive est une sorte de carte qui veut décrire comment un dispositif intelligent est organisé et fonctionne en expliquant le rôle et les actions de chaque pièce ainsi que leur interaction. Il existe de nombreux modèles d'architecture cognitive. Ils sont élaborés par des informaticiens et par des psychologues qui les utilisent pour simuler des machines ou pour décrire le fonctionnement de capacités cognitives comme la mémoire ou la vision. Donc, maintenant que nous sommes passés par ces détours sur l'intelligence collective chez les animaux et dans notre cerveau et reproduits par des modèles informatiques et mathématiques, on peut aussi s'interroger sur l'intelligence collective chez les humains. Notre intelligence peut s'expliquer par l'intelligence collective de nos neurones, et nous-mêmes, en tant qu'animaux sociaux, nous comportons peut-être, en certaines situations, comme un essaim. Mais est-ce le cas? Ou est-ce qu'il y a des spécificités? Pour répondre à cette question, revenons-en donc à l'intelligence collective telle que nous en entendons parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence collective humaine. Ce thème connaît un regain d'intérêt et se popularise au tournant du XXIe siècle, quand Howard Rheingold publie en 2002 Smart Mobs, The Next Social Revolution. Ce titre prend la forme d'un quasi-oxymore. Mobs a été traduit en français par la foule, mais la connotation en anglais est bien plus forte encore. Mob, c'est en fait la populace, la cohue, la masse, la pègre, avec l'ensemble des connotations négatives que cela peut contenir. Mais cette mobs, elle peut être smart, c'est-à-dire qu'elle peut être intelligente et performante. Ce que Rheingold met ainsi en avant, c'est que la foule peut être intelligente et que ce n'est pas nécessairement un regroupement aléatoire au mouvement épidermique et dangereux. En 2004, James Urowiecki, qui est un chroniqueur économique au New Yorker, au New York Times et au Wall Street Journal, publie un best-seller qui repose sur la même conviction. Son livre, The Wisdom of Crowds, est traduit en français par La sagesse des foules. Une des idées phares qui est développée dans le texte est que la foule peut être, sous certaines conditions, une bien meilleure conseillère que des experts. Cette notion de crowd, de foule, se retrouve d'ailleurs aujourd'hui, en 2023, dans bien des pratiques qui supposent que la foule est capable de rationalité. Pensez par exemple aux pratiques de crowdlending, de crowdsourcing, de crowdfunding. Ce sont des démarches qui sont permises souvent par des plateformes en ligne et qui permettent à une foule de participer au design ou à la sélection de projets émergents et créatifs. Le crowdfunding, par exemple, qui est aussi connu sous le nom de financement participatif, est une pratique dans laquelle un grand nombre de personnes, la foule, contribuent financièrement à un projet, une entreprise ou une cause. Il existe beaucoup de formes différentes de crowdfunding. Mais dans tous les cas, c'est en quelque sorte la foule qui va décider quel projet, quelle entreprise ou quelle cause mérite de se développer. Cette vision positive de la foule, portée par Surovieki et Rheingold, est radicalement différente de celle qui avait pu être développée dans quelques classiques des sciences humaines, et notamment en psychologie. Pensons par exemple à la psychologie des foules de Charles Le Bon. À la fin du 19e siècle, il mettait en avant le comportement irraisonné des hommes quand ils sont en groupe, et il indiquait même qu'ils peuvent, je cite, « régresser à un stade primaire de l'humanité ». Pour comprendre ce phénomène d'intelligence ou de stupidité des foules, au-delà du débat d'idées, un détour par les mathématiques peut à présent éclairer le propos. Dans son ouvrage, Surovieki popularise l'expérience qui est attribuée au Britannique Francis Galton, connu pour ses travaux en statistique et en psychologie. L'expérience menée en 1906 est la suivante. Dans une foire de bétail, a lieu un concours sur l'estimation du poids d'un bœuf. Galton examine la réponse des experts, les agriculteurs, et la compare à celle de plus de 750 badauds. La conclusion est que l'estimation agrégée des passants, qui n'ont pas de connaissances spécifiques, est bien plus précise que l'estimation de l'expert. En fait, cette expérience de 1906 est aussi le test d'un théorème mathématique plus ancien encore, qui date de 1785 et dont l'auteur est le mathématicien Nicolas de Condorcet. Celui-ci se demande de combien de personnes doit être constitué un jury ou une assemblée si elle veut produire une décision correcte. De manière très simplifiée, ce que montre ce théorème du jury, c'est qu'un groupe, collectivement, peut être plus intelligent que le plus intelligent des membres de ce groupe. À partir de ce théorème se développent aussi les théories dites du choix social qui cherchent à voir la manière dont l'agrégation des opinions individuelles peuvent mener à une décision collective et sous quelles conditions un choix pris par plusieurs va être plus juste que dans un petit groupe. En effet, l'intelligence collective dépend de certaines conditions, comme la distribution des informations qui permettent un niveau d'expertise minimum sur la question. Sous ces conditions, on va aboutir à des résultats plus intéressants dans un grand groupe que dans un plus petit. Il faut donc des règles minimales et en même temps conserver un certain niveau de décentralisation pour que s'exprime l'intelligence collective humaine. Ces conditions sont étudiées notamment en mathématiques et en philosophie, mais de nombreuses autres disciplines encore s'intéressent à l'intelligence collective. Par exemple, en sociologie et en sciences politiques, les travaux de Howard Bloom sont éclairants. Dans son livre de 2009, intitulé The Genius of the Beast, A Radical Revision of Capitalism, Bloom explore la nature complexe des systèmes sociaux et économiques. Il soutient que les grandes idées et mouvements émergent de manière collective plutôt que des actions individuelles isolées. Il met en avant que les groupes humains, qu'ils soient des sociétés, des entreprises ou des mouvements sociaux, peuvent générer une intelligence collective capable de résoudre des problèmes complexes et de favoriser l'innovation. Dans le champ du management et de la théorie des organisations, enfin, Anita Woolley est connue pour sa recherche pionnière avec Thomas Malone et d'autres collègues qui a été publiée en 2010 dans la revue Science. L'étude, intitulée Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups, s'est penchée sur la notion d'intelligence collective en tant que facteur distinctif du quotient intellectuel individuel. Ce que montre l'article, c'est que l'intelligence collective est plus que la somme des intelligences individuelles. Nous avons donc vu que l'on pouvait parler d'intelligence collective humaine et l'approcher à travers différentes disciplines comme les mathématiques, la philosophie, la psychologie, la sociologie, les sciences du management et des organisations. Mais là, nous n'avons pas encore montré de spécificité de l'intelligence collective humaine. Il semble qu'une spécificité apparaisse à l'heure des nouveaux moyens technologiques, l'Internet, l'intelligence artificielle et les techniques de visualisation. Pour comprendre l'impact de ces nouvelles technologies sur l'intelligence collective humaine, il peut être éclairant de s'intéresser à la typologie de l'intelligence collective telle que proposée par Jean-François Nobel. En 2004, dans son livre « L'intelligence collective, la révolution invisible », il distingue quatre types d'intelligence collective. L'intelligence collective en essaim, sur laquelle nous ne reviendrons pas, l'intelligence collective originelle, l'intelligence collective pyramidale et enfin l'intelligence collective holomidale. L'intelligence collective originelle, ou tribale, s'observe quand un petit groupe d'individus, pas plus de 20, opèrent ensemble dans un environnement physique proche qui leur permet des interactions régulières et une adaptation en temps réel aux actions des autres. Cette adaptation se fait aussi par le biais de l'intuition ou des émotions. Cette intelligence originelle est observable par exemple dans une équipe de foot en plein match ou dans un groupe de jazz en concert. Dans ces groupes, chacun va s'adapter en temps réel aux actions des autres. Dans ces groupes, il n'y a pas d'hiérarchie prédominante, figée et formalisée, mais certaines règles de base sont partagées par tous. L'intelligence collective pyramidale se déploie pour sa part dans les organisations hiérarchiques traditionnelles, par exemple l'État ou la grande entreprise. En fait, cette forme d'intelligence collective est très courante dès lors que l'on dépasse le stade de quelques dizaines de membres. Des caractéristiques en sont la division du travail, l'autorité, le développement des normes ou des standards, la hiérarchie formalisée. Cette forme d'intelligence collective permet d'organiser l'ensemble des ressources et d'orienter l'intelligence des acteurs vers un but, donc elle permet une forme de performance. Cette intelligence collective souffre cependant d'un manque d'adaptabilité aux situations mouvantes et complexes. L'intelligence collective holomidale, enfin, est le dernier des quatre types d'intelligence collective décrites par Nobel. Cette intelligence collective est très décentralisée, très distribuée. Il s'agit d'une intelligence collective qui émerge de collectifs constitués d'un très grand nombre de personnes, parfois en distance les unes des autres. Elle se retrouve dans le développement d'une économie mutualiste et collaborative, dont Wikipédia est un excellent exemple. Selon Nobel, ce modèle d'intelligence collective permet d'être plus réactif et créatif. Cependant, elle suppose pour apparaître et se déployer l'usage de nouvelles technologies, Internet et les wikis, pour l'exemple de Wikipédia que nous prenions précédemment. Plus spécifiquement, Nobel parle de système d'information et de cyberspace. Le système d'information permet de recréer la proximité physique observée dans l'intelligence collective originelle. Il va aussi permettre d'ordonnancer les informations grâce à des interfaces de visualisation et puis grâce à des opérations de calcul et de simulation. Le terme de cyberspace, lui, est utilisé pour souligner que sur ces interfaces numériques, une forme de sociabilité va se recréer. En évoquant ainsi les diverses formes d'intelligence collective selon Nobel, nous venons de tracer un itinéraire qui nous conduit à considérer l'intelligence collective humaine sous un nouvel éclairage. On commence à voir ici, dans cette notion d'intelligence collective holomidale, un lien entre les machines, l'informatique et l'intelligence collective humaine. Dans le monde moderne, que l'on pourrait caractériser par l'avènement d'Internet, de l'intelligence artificielle et de nouvelles techniques de visualisation, une question émerge alors. Comment ces éléments influent-ils sur notre conception traditionnelle de l'intelligence collective humaine? Et c'est ici que nous allons amorcer notre réflexion sur l'intelligence collective humaine augmentée, qui est un bien drôle de terme. Pierre Lévy, philosophe français, anticipait déjà en 1994 une redéfinition de l'intelligence collective en tant que capacité distribuée à travers les individus et les technologies de communication. Il soutenait que la synergie entre les personnes et les machines pouvait générer une intelligence collective spécifique. Il explorait les implications culturelles et sociales de l'émergence de ces nouvelles technologies. Il met notamment en lumière la transformation des modes de communication et la création de ce qu'il nomme une cyberculture. Cette idée, qui peut sembler à première vue lunaire, se retrouvera aussi dans d'autres travaux depuis. Dans l'ouvrage de 2002, Smart Mobs, que nous avons déjà évoqué, Rheingold explore également la manière dont des groupes humains, larges et fluides, deviennent intelligents grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Celles-ci permettent d'échanger des informations, de s'auto-organiser et de réagir très rapidement à un événement. Les technologies qu'il cite sont Internet, les blogs, les wikis, les SMS, les chats, et nous pourrions bien sûr en ajouter beaucoup d'autres qui sont apparues depuis 2002. Cela peut sembler étonnant, mais on peut penser récemment au rôle des réseaux sociaux dans les mobilisations en Iran ou ailleurs dans l'organisation ad hoc de manifestations politiques ou artistiques. Cette idée d'interaction entre les machines et l'intelligence collective humaine prend un nouvel élan dans le contexte actuel. D'ailleurs, des travaux en cours menés notamment au Massachusetts Institute of Technology mettent en avant l'apparition de ce qu'ils nomment les superminds ou en français les super-esprits. Plus précisément, le Centre d'intelligence collective du MIT investigue comment les humains et les ordinateurs, ensemble, dans leur interaction et leur connexion, peuvent être collectivement plus intelligents. Plus intelligents que n'importe quel individu, que n'importe quel groupe ou que n'importe quel ordinateur pris isolément. Autrement dit encore, le numérique n'est pas qu'un simple facteur qui faciliterait ou permettrait l'intelligence collective. Il en serait une composante à part entière. Dernière reformulation de cette idée, il s'agit d'inclure les machines et nos interactions avec elles dans la définition de notre intelligence collective d'espèce. Il faut donc concevoir cette intelligence collective dans le cadre d'un humain augmenté. En clôture de notre exploration sur les facettes de l'intelligence collective, il apparaît clairement que cette notion transcende certaines frontières disciplinaires. Cela offre une perspective fascinante sur la façon dont des agents interagissent pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs efforts et capacités individuelles. Des modèles biologiques aux avancées informatiques, de la psychologie des foules à leur sagesse, l'intelligence collective a évolué en une discipline pluridisciplinaire qui transcende les barrières entre les sciences naturelles, les sciences humaines et sociales et l'informatique. Une fois ces contours tracés, on peut se demander pourquoi cela fait couler tant d'encre au-delà de l'intérêt intellectuel évident de la question et de la volonté de documenter notre fonctionnement en tant qu'animaux et espèces qui évoluent. Nous en passons donc aux enjeux et limites de l'intelligence collective. Le regain d'intérêt pour l'intelligence collective et la multiplicité des études à ce sujet, qui proviennent de différentes disciplines, nous mènent à nous interroger sur ses effets et conditions d'apparition. Penchons-nous sur ces enjeux ou promesses ? Les enjeux multiples de l'intelligence collective comprennent par exemple la capacité d'innovation et d'adaptation, la capacité à relever des défis communs complexes ou le rapport à l'expertise et à la connaissance. La capacité à innover et à s'adapter est un des premiers enjeux du développement de l'intelligence collective. En effet, l'intelligence collective, comme nous l'avons vu, peut se définir comme la capacité d'un groupe vaste et étalé à comprendre son environnement et à trouver ensemble des solutions pour s'y adapter. Il y a là un lien fort à l'innovation et à la création de meilleures solutions. Un entrepreneur français comme Martin Duval le met parfaitement en avant dans son livre « De l'open innovation à l'intelligence collective ». Dans un environnement toujours plus mouvant, que l'on qualifie volontiers de VUCA, l'enjeu est d'atteindre une adaptation rapide, non permise par des structures pyramidales et centralisées. Dans ces structures pyramidales et centralisées, la remontée d'informations et la cascade des consignes prend un temps qui n'est pas adapté à la réactivité nécessaire au soubresaut de l'environnement. Un deuxième enjeu, en lien d'ailleurs avec le premier, et que l'intelligence collective à large échelle permettrait aussi d'aller vers des solutions innovantes plus soutenables, par exemple en travaillant collectivement sur les enjeux de développement durable. L'idée sous-jacente est qu'en faisant collaborer un très large groupe de personnes de différents horizons, nous arriverons à trouver les solutions dont nous avons besoin en tant qu'espèce pour relever les défis des décennies à venir. D'ailleurs, des outils et méthodes ont déjà été développés en ce sens. En guise d'illustration, le Deliberatorium est un outil qui avait été créé par Mark Lyne et son équipe au MIT dès 2008. Cet outil illustre parfaitement la puissance de l'intelligence collective dans la prise de décision à grande échelle. Utilisé comme un forum numérique, le Deliberatorium a été déployé avec succès, par exemple pour définir des politiques environnementales et notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet outil vise à permettre une participation collaborative et éclairée d'un très grand groupe d'acteurs à distance les uns des autres. En pratique, il offre aux participants la possibilité de contribuer à la création en ligne d'une carte des idées et des arguments liés à une thématique spécifique. Et cela en évitant les redondances et en encourageant la diversité des perspectives et la créativité. Prenons l'exemple de son utilisation dans l'élaboration de politiques environnementales. Les participants peuvent signaler les problèmes, proposer des solutions et argumenter pour ou contre chaque idée. Ainsi, le Deliberatorium veut créer un espace dynamique où vont émerger des solutions innovantes grâce à la contribution d'un groupe très diversifié. D'autres outils et méthodes ont depuis vu le jour. Certains d'entre eux sont déjà présents en France, tels qu'Hypermind, Decidim, Bluenov, chacun apportant ses spécificités techniques et méthodologiques. Ces types de dispositifs représentent des exemples de la manière dont l'intelligence collective, soutenue et augmentée par des technologies et méthodologies adaptées, peut transformer la manière dont les décisions sont prises. Les travaux de Thomas Malone et de l'équipe du Collective Intelligence Center mettent en avant des processus dans lesquels l'intelligence collective à large échelle est particulièrement adaptée, comme les processus démocratiques ou les études de marché. Enfin, dernier exemple d'enjeu, l'intelligence collective pousse à repenser notre rapport à l'expertise et à la hiérarchie, en quelque sorte à la technocratie. En effet, si l'intelligence collective augmentée par les outils numériques permet de meilleures prises de décision, c'est aussi parce qu'un groupe d'experts nombreux peut aller vers des solutions plus exactes qu'un groupe restreint d'experts. Cependant, cela ne veut pas dire que l'expertise et la connaissance disparaissent, elles se déplacent plutôt. L'expertise et la connaissance dans l'intelligence collective ne sont plus définies par l'appartenance à un métier, l'obtention d'un diplôme, l'arrivée à un niveau de responsabilité, une ancienneté sur un poste. Il faut un minimum de connaissances et d'informations pour participer aux démarches d'intelligence collective, certes. Mais cette connaissance n'est pas forcément là où on l'imagine et il peut y avoir ce que l'on qualifie d'expertise profane. En tout état de cause, si l'intelligence collective émerge de la collaboration, elle est également sujette à de nombreuses conditions. En effet, s'il est possible d'être plus intelligent à plusieurs, il est aussi possible de se tromper collectivement. Cela peut être dû aussi bien au comportement de chaque acteur individuel qu'aux caractéristiques du groupe ou de son fonctionnement. À cet égard, les travaux du sociologue Christian Morel sur les décisions absurdes sont éclairants. Dans un article intitulé « Prend-on de meilleures décisions à plusieurs ?», il met ainsi en avant que l'agrégation de raisonnements individuels, s'ils sont imparfaits, limite fortement la validité du processus de décision. En somme, si chacun se trompe, tout le monde se trompe. Une réflexion à plusieurs produit à la fois beaucoup de bruit et beaucoup de silence. Du bruit sous forme de redondance et de développement inutile. Du silence du fait de la disparition dans le débat de certains sujets ou de certaines préoccupations par des mécanismes d'autocensure ou parce que le fonctionnement du partage des informations ne permet pas de prioriser les éléments importants de la réflexion. Sur ce point, les travaux sur les biais cognitifs sont éclairants. Les biais cognitifs renvoient à l'expression forgée en 1972 par le psychologue Irwin Yanis dans Group Think, Psychological Studies of Policy Decision and Fiascos. Cette expression désigne un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Appliqué à un groupe, il s'agit de décrire des mécanismes par lesquels un groupe est amené à prendre ou à approuver des résolutions qui ne correspondent pas nécessairement au jugement individuel de ses membres. Il en existe de très nombreux et ont donné lieu à une importante littérature. À titre d'illustration, nous pouvons évoquer les phénomènes de conformisme et d'anticipation fausse. Le conformisme résulte de la crainte des individus d'être déconsidérés en adoptant une position minoritaire ou isolée. La tendance au consensus retient ainsi les participants d'amener des points de vue qui provoqueraient des discussions désagréables. Ils vont donc se conformer à ce qu'ils pensent être l'opinion majoritaire sans exprimer leur propre avis. Les anticipations fausses, quant à elles, constituent un autre mécanisme qui peut d'ailleurs renforcer la tendance au consensus. Ces anticipations fausses consistent à attribuer à autrui des intentions ou des jugements qu'il n'a pas. Ces mécanismes, s'ils dépendent bien des chemins de chaque agent, dépendent aussi des caractéristiques du groupe. Par exemple, un groupe fermé sur lui-même, avec un haut niveau de cohésion et une homogénéité idéologique, a plus de chances d'être sujet au biais et donc d'aboutir à des décisions somme toute peu innovantes ou erronées. De la même manière, la présence d'un leader très directif ou l'existence de menaces extérieures ont tendance à appauvrir la richesse de la réflexion collective. Des travaux de recherche sont ainsi menés pour explorer les facteurs qui influent sur l'intelligence collective et permettent de limiter les biais. Un critère est par exemple celui de la diversité. Une expérience réalisée au début du XXIe siècle par le MIT porte ainsi sur le comportement de traders sur des marchés fictifs. Le premier groupe de traders présente une grande homogénéité, tandis que le second se caractérise par une diversité ethnique. À la clôture du marché, les résultats du groupe ethniquement divers surpassent ceux du groupe homogène. Les chercheurs avancent alors une explication quelque peu sensible. Dans le groupe homogène, les membres ont tendance à accorder leur confiance mutuelle de manière naturelle. À l'inverse, dans le groupe diversifié, une méfiance instinctive s'installe en raison des différences. Les auteurs concluent que la diversité ethnique favorise l'indépendance d'esprit et par conséquent l'intelligence collective. D'autres études plus récentes, menées notamment par Anita Woolley, portent sur le genre et la structure hiérarchique des groupes. Un exemple de résultat est que l'inclusion des femmes dans les exercices d'intelligence collective est un facteur important dans la performance de ce type de démarche. D'autres facteurs sont bien sûr étudiés, par exemple une communication efficace, la perception par les membres du groupe d'une égalité de considération de leur contribution, qui vont contribuer à la réussite de ces démarches d'intelligence collective. On le voit alors ici, à travers ces exemples de leviers de l'intelligence collective, il devient crucial d'organiser un minimum ces démarches d'intelligence collective. Le nombre important de conditions sous-jacentes à l'émergence et à la validité des démarches d'intelligence collective ouvre la voie à une nouvelle question. Comment organiser cette intelligence collective pour aboutir à des décisions performantes? De nombreux travaux ont cherché à aborder cette question. On peut penser notamment à ceux qui ont été portés par Cécile Dejoux, enseignante en management au CNAM et à l'ESCP. Elle propose le modèle des 5 R pour créer de l'intelligence collective. Selon elle, ce modèle des 5 R permet de dépasser le simple exercice collaboratif et peut permettre à un groupe nombreux de relever des défis complexes. Ce modèle repose sur des fondements à établir au sein des groupes, sur les rôles, les rites, le respect, la reconnaissance et les règles. Concernant les rôles, il s'agit de donner à chacun un rôle dans l'équipe afin de générer individuellement un sentiment d'utilité. Pour les rites, il faut créer un jeu de routine, comme par exemple célébrer les victoires. Concernant le respect, il s'agit de co-construire des règles qui permettront à chacun de respecter l'autre. La reconnaissance vise, elle, à faire en sorte que les individus soient reconnus personnellement dans leur rapport au collectif. Les règles, enfin, sont selon Madame Dejoux des règles comportementales qui doivent être co-construites par les membres du groupe. Dans la même lignée, Olfa Grezel-Zaibe insiste sur 4 leviers à actionner pour produire de l'intelligence collective. Un levier cognitif, il s'agit de créer du sens. Un levier relationnel, il faut tisser des liens. Un levier social, il faut pouvoir s'appuyer sur une culture commune. Et un levier managérial, il y a besoin de manager le collectif et donc besoin d'un ou de plusieurs coordinateurs. Ces deux dernières recherches que nous avons citées, qui se situent dans le champ des sciences de gestion, insistent donc sur l'importance du cadre et sur le rôle de manager de l'intelligence collective. Elle s'attache aussi à distinguer l'intelligence collective des simples démarches collaboratives. La collaboration se focalise sur la coopération individuelle à un instant T vers des objectifs communs, là où l'intelligence collective cherche à exploiter la diversité des compétences et à générer des solutions innovantes. Mais surtout, cette intelligence collective suppose une synergie d'un groupe qui est uni par une sociabilité et des règles de fonctionnement. En conclusion, l'intelligence collective n'est pas simplement un sujet d'études académiques, c'est aussi une force dynamique qui façonne notre manière de penser, d'innover et de résoudre des problèmes. Comprendre cette dynamique devient crucial dans la construction d'un avenir où la collaboration, la diversité des idées et l'utilisation judicieuse des technologies sont au cœur de nos réalisations collectives. Cependant, l'efficacité de cette intelligence collective n'est pas automatique. Elle dépend de conditions spécifiques, de la gestion des biais cognitifs et de la mise en place de structures adéquates. Mais une fois ces points saillants résumés, comment conclure ce panorama multidimensionnel probablement par trop touffu? Peut-être en faisant un pas de côté critique. Comme nous l'avons vu, l'intelligence collective s'appuie sur la conviction que la somme des intelligences individuelles peut dépasser les capacités d'un seul agent, conduisant à des solutions plus robustes et à une compréhension plus approfondie des défis auxquels nous sommes confrontés. Mais l'étude de cette faculté est compliquée, d'autant plus si l'on souhaite y ajouter aujourd'hui les interactions entre les humains et les machines. Cette complexité explique peut-être pourquoi certains ont soutenu que l'intelligence collective était un mythe, une idée simple et séduisante, recouvrant une myriade de réalités différentes. Ces auteurs continuent en indiquant, je cite, que depuis quelques années, une véritable mythologie s'est constituée autour du thème de l'intelligence collective, une mythologie entretenue par quelques prophètes, ingénieurs, écrivains ou philosophes, à travers quelques livres marquants. Si la multiplicité des angles d'attaque et des réalités englobées par le terme est un fait, la notion est loin d'être simple. Ensuite, quant à dire que l'idée n'est le fait que de quelques prophètes, c'est probablement faire peu de cas de l'intensité des travaux conjoints de chercheurs en mathématiques, informatique, psychologie, management, économie, sciences politiques, éthologie et autres qui cherchent à percer les mystères de notre fonctionnement en tant qu'espèce. Enfin, indiquer que le thème est récent, c'est aussi méconnaître probablement que le thème n'est pas si nouveau que cela. Nous avons cité des travaux variés, dont certains remontent au XVIIIe siècle. Nous aurions aussi pu citer bien d'autres auteurs canoniques. Dernier exemple pour notre propos, Herbert Simon, esprit génial et interdisciplinaire, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 1978. Au carrefour entre la psychologie, l'économie, la philosophie, les mathématiques, et déjà théoricien de l'intelligence artificielle dans les années 60, Simon a élargi la vision de la notion d'organisation en faisant un système d'intelligence collective. Il décrit ces organisations comme des entités où les individus collaborent pour résoudre des problèmes, prennent des décisions ensemble et s'adaptent à leur environnement dans des contextes de rationalité limitée. Enfin, certains chercheurs, comme l'enseignant à Sciences Po Paris Lex Paulson, soutiennent même qu'Aristote et Platon avaient déjà pensé l'intelligence collective, ce qui tord le cou à l'idée selon laquelle il s'agit d'un concept qui ne se développerait que depuis quelques années. Bref, la complexité d'un phénomène qui résiste aux chapelles théoriques et la médiatisation ponctuelle du thème ne nous semblent pas être des arguments suffisants pour affirmer que le phénomène en lui-même n'existe pas. En revanche, ce qui est peut-être un mythe, c'est l'idée selon laquelle on pourrait agir ou manager, selon certains leviers, cette intelligence collective à large échelle. Selon nous, l'enjeu crucial auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est la transition d'un modèle pyramidal d'intelligence collective vers un modèle holomidal, plat ou distribué. Le système pyramidal est supposé trop rigide, hiérarchique, lent et loin de nos instincts pour répondre aux enjeux de demain. Le modèle holomidal est lui caractérisé par sa décentralisation et par les capacités d'adaptation et d'innovation qu'il promet. La décentralisation nécessaire pour favoriser l'expression individuelle et la diversité des idées nécessaires à une forme holomidale d'intelligence collective soulève cependant un paradoxe intrigant. Comment organiser efficacement une intelligence collective à grande échelle, de manière décentralisée, sans compromettre le principe même de cette décentralisation? Nous touchons là à de nombreuses questions que nous laisserons ouvertes pour agrémenter les soirées des personnes qui auront écouté ce propos. Peut-on chercher à organiser une intelligence collective à large échelle et décentralisée sans casser justement ce principe de décentralisation? Peut-on vraiment instaurer un modèle holomidal sans remettre en question certaines notions fondamentales de hiérarchie et d'organisation sociale? Et enfin, comment pouvons-nous concevoir une gouvernance qui facilite une intelligence collective décentralisée tout en évitant les pièges de la centralisation excessive?